Nous avons été crucifiés avec lui. Alors, la mort de Christ, c'est aussi notre mort. Comprenez-vous? Et quand on est mort, est-ce qu'on pêche encore?
Non.
C'est fini, hein? C'est fini. Et c'est cela que le Seigneur va vous faire comprendre. Alors, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis? Mais il ne dit pas ça d'une expérience seulement personnelle. C'est pour nous tous. C'est pas simplement parce que Paul serait arrivé à un certain état mystique qui dit « j'ai été crucifié avec Christ ». C'est la règle pour tous les croyants. Vous avez été crucifié avec Christ. C'est un fait. Christ n'est pas mort tout seul, il est mort avec vous. Il est mort, vous êtes mort en lui. Vous êtes mort en Christ. La mort du Christ vous concerne et devient votre mort. Hein? Et maintenant, est-ce qu'il est resté dans la mort? Non, il est ressuscité. Alors, si vous vivez, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui? Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, parce qu'on est encore dans la chair, nous. Jésus, lui, il est dans la gloire, mais nous, nous sommes encore dans la chair. Et nous avons à vivre encore un temps dans la chair, dans la nature humaine. Mais au lieu de vivre selon la chair, maintenant nous avons un nouveau principe de vie. Je le vis, ce que je vis dans ma chair, je le vis dans la foi. Je le vis en croyant tout ce que Christ est. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Quelle est la relation qu'on a avec le Christ? Une relation d'amour. Et alors quand on aime, on fait n'importe quoi. Comprenez-vous? N'importe quoi dans le bon sens. Hein? On fait n'importe quoi pour celui qui nous a aimés. Parce qu'il nous aime. On a un nouveau mobile. C'est plus une loi qui dit fais ceci, fais cela. Mais c'est l'amour. Le vrai amour. Je le vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, il ajoute, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rejetterait la grâce de Dieu? Vous aimeriez mieux essayer d'être sauvé par vos œuvres? Ça ne sauve pas et vous n'arriverez jamais. Alors, vous n'allez pas rejeter la grâce de Dieu. Paul dit, moi je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, si vous pouviez être justifié par la loi, Christ serait mort en vain. Alors, le Seigneur crucifié, là, il est mort pour rien. Ce n'est pas nécessaire. Si vous pouviez vous en tirer vous-même. Si on n'a pas de raison de vivre non plus. Eh bien, que le Seigneur... Voilà, j'ai essayé de parcourir avec vous ces deux chapitres. J'espère que vous n'êtes pas tanné. Mais encore une fois, nous allons réclamer l'aide du Seigneur. Nous savons, ô notre Dieu, que sans ton esprit, nous ne pouvons absolument rien comprendre de ta parole. Et nous voulons te demander que cet esprit qui l'a inspiré nous soit vraiment donné sans mesure pour que nous puissions pénétrer dans ces vérités profondes et qu'elles se clarifient pour nous et qu'elles nous deviennent précieuses, que nous puissions en vivre. C'est la grâce que nous te demandons. Donne-nous par notre exposé de ne pas compliquer encore les choses, mais donne-nous la grâce pour parler. Et accorde-nous la grâce aussi pour recevoir ton message. Et surtout donne-nous d'être de ceux qui ne laissent pas seulement passer l'eau à travers le canal, mais que nous puissions aussi vivre de ce que nous prêchons, pour qu'il n'y ait rien de rouillé en nous, mais que tout soit pur dans notre vie en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes amis, en cet après-midi du 8 février 1986, sous ce thème « Comment lis-tu ?», nous allons donc aborder les chapitres 3 et 4 de la lettre de Paul aux Galates. Ce matin, nous avons appris à deux reprises que Jésus s'était donné lui-même. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Dans le chapitre 1er, il est dit que Jésus s'est donné lui-même. Pourquoi ? Pour nos péchés, afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais, de ce monde qui va vers la ruine, vers la colère de Dieu. Car le monde, croyez-le bien, il mûrit pour un jugement qui sera à la mesure de ses péchés et de ses iniquités. Car s'il est vrai que le croyant n'est plus sous la loi, je voudrais tout de suite souligner que la loi a été donnée par Dieu et que cette loi, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, et que nul, comme on le dit souvent, n'est censé ignorer la loi. Or, si vous regardez un peu ce qui se passe dans ce monde, la loi divine est continuellement transgressée. On tue, on vole, on commet adultère, on maudit père et mère, et il n'y a pas un des 10 commandements et qui ne sera pas transgressé. Qu'est-ce que le monde adore aujourd'hui? Vous avez appris dans votre catéchisme, un seul Dieu, tu adoreras. Or, dans notre propre langage, qu'est-ce que nous entendons le plus souvent? J'adore, 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 j'adore. J'adore quoi? N'importe quoi. Et n'importe qui. Oh, je l'adore. Vous voyez, c'est une bande de païens baptisés. C'est tout baptisé, mais c'est tout païen. Grand païen que nous sommes, on adore. Et c'est pas Dieu qu'on adore. Et c'est grave. C'est très grave. Et le nom de Dieu, dont on le prend en vain, même si on sacre avec tous les objets de l'Église. Vous savez très bien qu'au Québec, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, quand on sacre, on dit pas des saints lettres, mais on sort tout ce qu'il y a dans l'Église. Qui faisait dire à ce petit gars qui était dans un de nos camps et qui entendait des tabernacles, des calices, des sacristies, et il disait, pourquoi tu dis pas cathédrale, il y a tout dedans. J'étais un petit qui disait ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'est drôle. Hein? Mais c'est prendre le nom de Dieu en vain et c'est ne pas se soucier des choses qui sont saintes. Attention. Alors, j'étais à Lyon il y a 3 semaines, et on m'a demandé de prêcher pour toutes les églises de cette ville de Lyon sur les 10 commandements, justement, et je me demandais pourquoi ils avaient choisi ce thème des 10 commandements, replacer les gens, au fond, sous la loi. C'était en quelque sorte les replacer sous la malédiction. Et c'était des pasteurs de l'Allemagne de l'Est qui avaient choisi ce thème et qui était annoncé « Je suis l'Éternel ton Dieu » et puis les 10 commandements. Et chaque soir, on devait traiter un de ces commandements. Et j'ai compris que je pense que ces pasteurs sont émus de voir tout ce qui se passe dans ce monde, que la loi divine est continuellement transgressée, qu'au fond, on vit d'une façon tout à fait contraire à ce que Dieu demanderait de l'homme. Mais, évidemment, si je rappelle simplement la loi, je ne vous aide pas à la pratiquer. Hein. je vous mets devant des commandements, et puis, qu'est-ce que vous allez faire comme expérience? Vous allez expérimenter, vous n'avez pas la force de les faire. Tu ne commettras pas adultère. Ben oui, mais comme il y a la convoitise dans mon cœur, si cette femme me plaît, même si c'est la femme d'un autre, je coucherai avec elle. C'est l'amour. L'amour. Et c'est ça, n'est-ce pas? Alors, on n'a plus vraiment de notion. Et puis, si on sait qu'il faut de l'argent pour faire un peu de la grande vie, bien si je ne l'ai pas, j'irai le prendre dans la poche du voisin, ou je ferai sauter une banque, que sais-je encore, hein? On s'arrange. Ah ben bien sûr, il y a la prison, mais on pourra peut-être s'en sortir. Puis on aura peut-être un bon avocat. Alors, on vit en pleine transgression. Mais j'ai pensé après que ces pasteurs, peut-être, avaient une autre pensée, en replaçant les gens devant la loi. Je me suis dit, peut-être qu'ils voudraient justement les amener au Christ, qu'ils se rendent compte qu'avec la loi, on n'arrive à rien, et que ces foules puissent s'écrier, comme dans le chapitre 7 des Romains, que je vous invite à lire comme complément à cette étude sur les Galates, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Parce que tout à coup, la loi me révèle mon incapacité totale à l'accomplir. Je suis charnel, qu'est-ce que vous voulez? Je reconnais que la loi est sainte, juste et bonne, mais je découvre que moi, en ma chair, il n'habite point de bien. Je découvre qu'il y a des puissances mauvaises en moi, et même si, dans ma conscience, je dis, c'est bien la loi, c'est juste la loi. C'est bien de ne pas tuer, c'est bien de ne pas voler, c'est bien de ne pas commettre adultère, parce que c'est voler la femme de quelqu'un, ou le mari de quelqu'un. Donc, ma conscience me dit, c'est bien cette loi. Mais voilà, j'ai de tels désirs dans mon cœur, donc, au fond, le mal, il est en moi. Alors, qui me délivrera? Qui? Eh bien, il y a quelqu'un. Dieu a entendu ce cri, et il a envoyé qui? Son fils. Il a envoyé son propre fils. Alors j'ai pensé peut-être que on avait replacé les gens sous la loi pour leur montrer que la loi ne peut être que notre conducteur jusqu'au Christ, un pédagogue qui nous mène au Christ. Parce que au fond la loi nous condamne. Alors ce matin donc, nous avons vu que le Seigneur nous avait été donné, justement pour nos péchés, parce que justement, nous sommes transgresseurs. Qu'est-ce que c'est que le péché? L'Écriture le dit, c'est la transgression de la loi. Comment est-ce qu'on a conscience du péché? On n'aurait pas conscience du péché si on ne connaissait pas la loi. C'est parce que la loi dit, tu ne tueras point, que je sais que tuer, c'est un péché. C'est parce que la loi dit tu ne commettras point adultère que je sais que commettre adultère est un péché. C'est parce que la loi dit tu ne diras point de faux témoignage contre ton prochain que je sais que la calomnie est un péché. Donc, c'est par la loi qu'est venue la connaissance du péché, mais Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme soit sauvé. Il a donné la loi pour que l'homme soit convaincu qu'il était misérable et qu'il soupire après une vraie délivrance. Je ne peux pas vous forcer à boire si vous n'avez pas soif. Il faut d'abord que vous ayez soif. C'est pourquoi mon vieil ami, le père Jean-Roger de Jérusalem, qui est auprès du Seigneur maintenant, me disait, tu sais, si tu amènes un groupe en Israël, conduis-les d'abord au désert, pour qu'ils sachent ce que c'est que la soif. Parce que si tu les amènes tout de suite à Jérusalem, ils viennent d'une grande ville comme Montréal, puis ils arrivent dans la grande ville de Tel Aviv, puis après tout de suite à Jérusalem, où il y a aussi toute espèce de buildings, d'hôtels, et ils ne sont pas préparés. Ils passent d'une ville à l'autre. Tandis que si tu les amènes au désert, hein, d'abord, pour qu'ils voient ce que c'est que le désert, le prix de l'eau, ce que c'est. Parce qu'au désert, vous savez, on ne soupire pas après du Coca-Cola. Hein. Au désert, on se dit, si je pouvais boire, quoi? De l'eau. Trouver de l'eau, une source. Puis tout à coup, quand vous voyez un oiseau au désert, ben vous savez qu'il doit y avoir de l'eau tout près. Hein. Puisqu'un oiseau, c'est un signe de vie. Et il doit y avoir de l'eau. Bien oui, je ne peux pas vous obliger à accepter Jésus si vous n'éprouvez pas le besoin d'un sauveur. Alors oui ou non, c'est quelque chose de radical que j'ai demandé au Seigneur. Avez-vous besoin d'un sauveur ou pensez-vous pouvoir vous en tirer vous-même avec Dieu et la justice de Dieu? Parce que vous savez, la justice des hommes, on la connaît, mais ce n'est pas des hommes qui vont vous juger, c'est Dieu. Et il va vous juger d'après l'attitude que vous aurez eue à l'égard de son Fils. Qu'est-ce que Jésus est pour vous aujourd'hui? 8 février 1986. Je parle à votre conscience, je parle à votre cœur, je parle aussi à votre intelligence, parce que je ne vous prends pas pour des imbéciles. Alors, en parlant à votre intelligence, que je veux croire, elle n'est pas encore complètement obscurcie, parce que si elle était complètement obscurcie, ça ne vous intéresserait pas de venir à des études bibliques. Donc, il y a encore quelque chose qui bouge en vous, quelque chose qui va s'éclairer dans votre intelligence. Je parle à votre conscience, parce que vous savez très bien que, au fond, il y a des choses qui ne sont pas en règle dans votre vie, comme j'ai dû aussi le reconnaître dans la mienne. Puis, je parle à votre cœur, en vous disant, quelles que soient les choses que te reproche ta conscience, Dieu t'aime. Et il voudrait parler à ton cœur. Dieu voudrait que quelque chose change en toi. Mais change radicalement, non pas momentanément, mais profondément. Est-ce que vous le voulez, cela? Est-ce que vous croyez que Dieu voudrait que vous ayez une vie différente? Et une vie qui vaut la peine d'être vécue. Moi, je ne sais pas combien d'années vous avez, les uns et les autres. Il y a des personnes déjà d'un certain âge, il y en a des plus jeunes, mais plus j'avance dans l'existence, plus je me dis que nos jours sont comptés. Et au fond, combien de jours dans ma vie ont été donnés à Dieu vraiment, qui m'a créé. Quelle place ce Jésus qu'il m'a donné et qui s'est donné lui-même pour mes péchés a-t-il eu dans mon existence? Je parle à vos cœurs, je parle à votre conscience, je parle à votre intelligence. Dans le chapitre 2, on a vu aussi que ce Jésus nous a aimés. Et pourquoi s'est-il donné lui-même? C'est parce qu'il nous a aimés. Et ça, moi, je ne peux pas vous en convaincre, mais je demande que le Saint-Esprit vous convainque de ça. Jésus vous a aimé. Et que je sois damné si ce n'est pas vrai. Je vous le dis, qui que vous soyez ici, Jésus vous a aimé. Que moi, j'allais en enfer pour l'éternité si ce n'est pas vrai. Mais Jésus vous a aimé. Et un jour, vous l'aurez entendu. Un jour, il vous sera dit, on vous a dit que je vous aimais. Qui? De ce pauvre homme-là qui était le 8 février devant vous. Il vous a transmis ce message. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et c'est vrai. Vous pouvez être sûr de cela. Les paroles des hommes, vous n'êtes jamais sûr, mais Jésus vous aime. Il vous a aimé. Et il s'est livré lui-même pour vous. Il s'est donné pour vous. Pour que vous ayez cette vie éternelle que ce docteur de la loi désirait, mais il voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette vie éternelle. Et vous? Est-ce que vous êtes préoccupé par cette pensée, ou bien est-ce que vous dites, ça sera assez tôt quand on sera de l'autre côté, de savoir ce qu'il va y avoir. Non, ça sera trop tard. Parce qu'il y a un jour où c'est trop tard. Et moi, je ne voudrais pas que vous partiez sans savoir. Je ne voudrais pas que vous disiez, comme cet homme qui était au poteau d'exécution en France, et qui a dit, dans 5 minutes, je saurai. C'est trop tard. Hein? Donc, tout en étant soi-disant athée, il disait dans 5 minutes qu'il saurait. Donc, il pensait qu'il y avait quand même quelque chose. Vous voyez, on est complètement fou, on est complètement dingue, on se croit intelligent, et puis on est stupide, on est insensé. C'est le mot que Paul emploiera pour écrire aux Galates. Donc, on a appris 2 choses sur le Seigneur, 2 fois là, il s'est donné pour nous. Puis, il nous a donné les preuves dans ce que nous avons vu ce matin. Il y avait 4 preuves de l'apostolat de Paul. Que son évangile, d'abord, était vrai. La première preuve qu'il met en avant, c'est sa conversion et sa vocation. Est-ce qu'il a voulu, lui, servir le Seigneur ? Non. S'il est apôtre, c'est pas parce qu'il l'a voulu lui-même. Je vous ai raconté sa conversion. Ça est arrivé dans un moment où il était en pleine opposition au Seigneur. Vous savez qu'on peut être converti quand on est en pleine opposition au Seigneur ? J'ai connu une femme que j'ai beaucoup aimée et qui s'est convertie, elle, à 28 ans, dans un bal somptueux à Genève, en Suisse. Et tout à coup, ses yeux se sont ouverts, on a écrit un livre sur elle, sa petite fille l'a écrit, « Cette nuit-là, j'ai trouvé Dieu ». C'est dans un bal, en plein bal, c'est pas dans une église, c'est pas dans une réunion évangélique qu'elle s'est convertie. C'est dans un bal. Tout à coup, en voyant ses grands décolletés, elle-même était en décolleté, elle a eu le dégoût de la chair. Elle s'est dit, au fond, qu'est-ce qu'on fait dans un bal à se serrer les uns contre les autres? C'est tout charnel, ça. Et elle a vu le vide de tout cela. Elle est sortie, elle a rencontré Dieu. Et c'était une dame de la noblesse genevoise. J'ai connu son mari qui était colonel en Suisse. Ils sont auprès du Seigneur tous les deux. Mais c'est une des femmes qui a influencé ma vie quand j'avais 14 ans seulement. Cette nuit-là, j'ai trouvé Dieu. Où ? Dans un bal. Alors, on pourrait plutôt dire que c'est Dieu qui l'a trouvé dans le bal. Parce que c'est ça, nous, on pense toujours qu'on trouve Dieu. Hein. Et c'est lui qui nous trouve. Hein. Saul de Tarse allait pour persécuter les chrétiens, et qui est-ce qu'il a trouvé ? Le Seigneur, Dieu de son ciel de gloire. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il ne l'a pas foudroyé, ça c'est bien ce que nous aurions fait, nous. Hein. Pour l'empêcher d'aller tuer les autres, d'aller massacrer les chrétiens de Damas, on l'aurait foudroyé. Mais non, Dieu l'a sauvé. Et il en a fait un instrument de son cœur pour porter le glorieux message de l'Évangile à des multitudes. Ça, c'est Dieu. Hein. C'est signé. C'est Dieu. Eh bien, Dieu vous aime. Et il ne veut pas vous foudroyer. Malgré tout ce que vous avez pu être et malgré tout ce que vous avez pu faire. Et même si tout à coup vous êtes saisi par cette idée, mais j'ai perdu des années. Eh bien, Dieu vous dit, je te redonnerai les années que tu as perdues. Un jour avec Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pas moi qui le dis, c'est un psaume. Chaque jour que vous passerez désormais avec Dieu, pour Dieu, ça vous vaut 1000 jours ailleurs. Vous pouvez rattraper bien du temps. Alors, croyez-le, il y a encore espoir pour vous. Le message que Dieu a mis sur mon cœur pour vous est un message tonique. C'est pas pour vous déprimer que je vous prêche, que je vous parle. C'est pour vous restaurer. C'est pour vous redonner confiance. Que vous n'ayez pas besoin de médecin. Qu'est-ce que je dis, moi? Il y a ma femme qui est médecin. Ben, elle a déjà ses clients. que le Seigneur nous donne de croire sa parole. Hein. Donc, l'épreuve de son apostolat, il a été converti par le Seigneur. Deuxième preuve, il a été appelé au ministère par le Seigneur. Ce n'est pas les hommes qui en ont fait un apôtre, hein. C'est le Seigneur lui-même. Troisième preuve, quand il est allé à Jérusalem, puis qu'il a trouvé ce qu'on appelait les colonnes hein, dans l'Église, comme Pierre, Jacques et Jean, ils ont approuvé son ministère. Ils lui ont dit qu'ils étaient d'accord avec ce qu'il prêchait. Donc, c'est une troisième preuve que réellement Paul était un apôtre. Et puis, il a osé, quatrième preuve, résister à qui ? À un moment donné, à l'apôtre Pierre. Quand l'apôtre Pierre a dévié, parce que tout homme peut dévier, eh bien, Paul a osé lui résister en face. Alors, voilà les preuves de son apostolat que nous avons vues ce matin. Alors, mis devant un choix, en face de l'unique évangile, parce que c'est ça qui fait ma joie, où que je sois, il n'y a pas un évangile pour les catholiques, un évangile pour les orthodoxes, un évangile pour les protestants. Il y a un seul évangile. Il y a une seule bonne nouvelle. Et il faut choisir. Ce n'est pas une question d'église. C'est une question, c'est l'évangile. Et il n'y a qu'un évangile pour tous. Alors, il ne s'agit pas d'une question de personne. Paul ne s'est pas plaint d'un tort qu'on lui aurait fait en lui préférant d'autres prédicateurs. C'est pas du tout de ça qu'il est question dans cet épître. Mais il s'agit de la vérité de l'évangile. Il s'agit de la liberté qu'apporte l'évangile. Il s'agit même de la croix du Christ qui est la source de cette liberté. Qui caractérise la vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu. On a une liberté extraordinaire quand on connaît vraiment la vie chrétienne. On n'est pas sous un joug, on n'est pas des esclaves. Et voyez-vous, si Paul a réagi de cette manière vis-à-vis des Galates, c'est qu'il voyait que l'évangile était perverti. Dès que l'universalité de l'évangile et que la gratuité du salut se trouve compromis, eh bien, l'évangile est perverti. L'évangile, il est pour tous les hommes. C'est vrai ou c'est faux? La bonne nouvelle, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. De sorte que quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, vous pouvez croire que Dieu voudrait que cette personne soit sauvée. Vous pouvez croire ça. Il y a donc un préjugé favorable. Puis, non seulement vous devez garder cette universalité de l'évangile, Dieu veut que tous soient sauvés, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur, quelle que soit la religion de naissance, c'est pas la religion qui sauve, c'est cette foi. Et ensuite, un second caractère de l'évangile, c'est sa gratuité. Le salut de Dieu, ça ne se paye pas. Vous comprenez? Parce que si ça se payait, qu'est-ce qui serait sauvé? Les riches, hein? On pourrait faire les 100 coups pendant notre vie, mais parce qu'on est riche, à la fin de notre vie, je donne tout à l'église. Ce serait juste, ça? Vous croiriez à un Dieu comme ça? Un Dieu qui veut votre fric? À la fin de votre vie, vous menez la vie que vous voulez, puis après, pouf, tout ça c'est pour Dieu. Mais pour qui prenez-vous Dieu? Pour qui prenez-vous Dieu? Parce qu'on a une drôle d'idée de Dieu. Oh, c'est le bon Dieu. On l'a tellement représenté avec une grande barbe, j'ai rien contre les barbus, hein. Mais ce Dieu avec une grande barbe, et qui est dans un fauteuil, on dirait qu'il est plein de rhumatisme. Et puis il passerait l'éponge. C'est ça votre Dieu? C'est pas le Dieu de Moïse, hein? quand tu t'es trouvé devant le buisson ardent, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est pas le Dieu d'Ésaïe quand il l'a vu. Malheur à moi, je suis perdu. Pourtant, j'étais un prophète. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. C'est pas le Dieu de Job quand il a entendu Dieu lui parler du sein du tourbillon. Il a dit, j'ai horreur de moi. Lui qui était pourtant si pieux. Daniel, l'homme si fidèle en toutes choses, de sorte que même ses ennemis ne trouvaient rien à reprocher à ce qu'il faisait dans le royaume de Perse, eh bien, il dit, quand je le vis, je changeais de couleur. Je tombais là, sans force. Et prenez l'apôtre Jean si doux, qui se tenait toujours sur le cœur du Seigneur quand il était sur la terre, quand il a eu la vision de la gloire du Seigneur glorieux ressuscité, il dit, quand je le vis, je tombais là comme mort. Comme mort. Les plus intimes du Seigneur, ils tombent comme mort. Puis nous pensons que nous pouvons aller comme des grands garçons devant Dieu, puis dire, bon, ça va s'arranger. Non, ça ne s'arrangera pas. Car, voyez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu a parlé. Justement par la loi. Ce n'est pas la loi qui va nous sauver, mais la loi doit nous donner la conscience de la sainteté de Dieu et de sa justice. S'il y a une loi, et que cette loi est juste, elle doit s'exécuter. Comprenez-vous ? Alors, si nous l'avons transgressée, nous sommes donc coupables et il n'y a qu'une condamnation pour la transgression d'un seul commandement, c'est la même pour tous, c'est la mort. C'est nous qui parlons de péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché, c'est le péché. Le mal, c'est le mal. Mais nous, à force de mêler le noir et le blanc, on a fait quoi ? Du gris. Et on voit gris. Alors, on ne sait plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Entre ce qui est pur et ce qui est impur. Parce qu'on a tout mélangé. Alors, nous avons besoin d'être complètement nettoyés. Alors, l'évangile est perverti dès que l'on pense qu'on peut l'acheter. Vous ne pouvez pas acheter votre salut. Il vous est donné. Et il vous est donné gratuitement, de sorte que le plus pauvre parmi vous peut être sauvé. Sauvé par grâce. Mais l'évangile est perverti, non seulement quand on en nie l'universalité, ou quand on en nie la gratuité, mais il est perverti dès que l'homme prétend pouvoir se sauver par ses œuvres, au lieu d'accueillir dans la foi le salut que Dieu lui annonce gratuitement en Jésus-Christ. Si vous pensez que vous pouvez vous sauver par vos œuvres, eh bien vous n'êtes plus dans la ligne de l'Évangile. Et c'est pourquoi, nous l'avons vu ce matin, Paul présente le choix auquel l'Évangile oblige tout homme. Et je vous pose affectueusement cette question, est-ce que vous avez choisi ? On a terminé le chapitre 2 en disant, en écoutant ce que Paul dit, je ne rejette pas la quoi ? La grâce. Je ne rejette pas la grâce. Et vous ? En ce 8 février, qu'en est-il de vous ? Est-ce que vous avez rejeté la grâce ? Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, si c'est par vos bonnes œuvres que vous pouvez être sauvés, vous touchez à qui ? Vous touchez au Christ. Christ est mort pour rien. Christ est mort pour rien. Cette croix, ça n'aura servi à rien. Si vous pouvez être sauvé d'une autre manière, que par le sacrifice de Jésus-Christ, ben la croix est inutile. Alors, vous voyez, c'est tout le christianisme qui s'effondre si vous basez encore une fois votre salut sur vos bonnes œuvres. Alors, c'est pourquoi nous avons dit que vous allez trouver, et que nous trouvons plusieurs fois, ces trois couples de mots. Foi et loi. Puis quoi? Esprit et chair. Et puis liberté et asservissement. Alors, je dirais encore ceci, c'est que celui qui croit pouvoir être justifié devant Dieu par ses œuvres, eh bien, il ignore trois choses. Qu'est-ce qu'il ignore? Et qu'est-ce qu'on doit bien savoir? Parce que si vous croyez que vous pouvez être sauvé par vos œuvres, ça veut dire que vous ignorez trois choses. La première, vous ignorez la justice de Dieu. Vous ne savez pas ce que c'est que la justice de Dieu. La justice de Dieu. Dieu est juste. Et s'il a parlé, c'est pour être obéi. Et Dieu, s'il est juste, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est tenir le coupable pour innocent. Vous êtes d'accord ou non? Si Dieu est juste, il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Ça, c'est absolument certain. Coupable. Alors, est-ce que vous plaidez coupable? C'est à cela qu'il faut arriver. Parce que si Dieu est juste, il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Mais comme il est Dieu, qu'est-ce qu'il peut vous faire? Grâce. Mais faire grâce, ça ne veut pas dire que vous êtes innocent. Ça veut dire que dans son immense amour, parce qu'il est Dieu, il vous fait grâce. Alors vous comprenez que si vous rejetez la grâce, qu'est-ce qui vous reste? L'exécution. Vous perdez vous-même. Le refus de la grâce, le rejet de la grâce, c'est la perdition, c'est la mort. Si vous rejetez la grâce qui vous a été offerte, c'est la fin pour vous. Un condamné à mort qui refuse la grâce, qu'est-ce qui lui arrive? Il est exécuté, là où il y a la peine de mort. Il a refusé la grâce, eh bien, c'est l'exécution. De sorte que, vous voyez, la justice de Dieu, il faut la connaître. Dieu est juste. Mais comme il est Dieu, il est juste aussi quand il justifie ceux qui ont la foi en Jésus. Parce que qui est Jésus? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu est juste en vous justifiant, vous pécheurs? C'est parce que quelqu'un a pris votre place. Vous comprenez? Il a pris à son compte tout le mal que vous avez fait. Et il s'est présenté devant Dieu à votre place en disant, c'est comme si c'est moi qui l'avais fait. Et Dieu a frappé son fils. Voilà le pourquoi de la croix. Voilà pourquoi Dieu n'a pas répondu à ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était si vrai que Jésus portait nos péchés que Dieu a détourné sa face de son fils. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'aimait pas son fils, mais parce que sur son fils se trouvaient nos péchés, nos iniquités. Donc Jésus a payé la dette de vos péchés. C'est fait. De sorte que si vous acceptez le sacrifice de Jésus, Dieu serait injuste en vous condamnant. Comprenez? Dieu est juste quand il justifie ceux qui ont la foi en Jésus. De sorte que la grâce de Dieu, c'est une grâce qui repose sur une justice qui a été, ça, aidez-moi, faite. Oui, bravo, François, merci. On a besoin de nos sœurs. C'est une justice qui a été satisfaite, parfaitement satisfaite. Quelqu'un a payé. Quand j'ai une dette, et qu'un de mes amis a pu acquitter cette dette, est-ce que le créancier a le droit de me réclamer quelque chose? Parce que ce n'est pas moi qui ai payé. Non. J'ai maintenant une dette d'amour vis-à-vis de celui qui a payé pour moi. C'est tout ce qui me reste. Une dette d'amour. Alors, est-ce que le Seigneur qui vous a tellement aimé n'est pas digne de votre amour? Au fond, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de l'aimer. De l'aimer. C'est ça le grand commandement, c'est tout ce qu'il demandait. De l'aimer. Et il est digne d'être aimé. Alors, j'ai dit que celui qui croit pouvoir se justifier lui-même devant Dieu, il ignore trois choses. La première, c'est la justice de Dieu. La seconde, il ignore ce qu'est la chair. Il croit qu'il peut faire quelque chose. Or, plus vous avancerez dans la vie, plus vous ferez cette constatation du chapitre 7 des Romains, qu'en nous, c'est-à-dire en notre chair, il n'habite point de bien. Et que cette chair est incurable, que cette chair, elle ne peut pas s'améliorer, comme vous ne pouvez pas non plus penser qu'on pourra améliorer le monde nous-mêmes par les efforts des hommes de bonne volonté. Qui est-ce qui apportera un changement à ce monde? C'est la venue de qui? La venue de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il va revenir. Et de cela, vous devriez être conscient. Il y a un grand événement qui va arriver. Et on devrait le connaître. C'est le retour de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est réellement ressuscité. Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Et Jésus-Christ a promis que s'il s'en allait pour nous préparer une place, il reviendrait. Et vous direz, oh oui, mais il y a 2000 ans qu'il a dit ça. 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Et un jour est comme 1000 ans. On est bientôt vers la fin du deuxième jour. Hein? Et c'est peut-être très proche ce retour de Jésus. Parce qu'un jour il sera venu. Ça a été annoncé longtemps à l'avance qu'il viendrait un sauveur. Est-ce qu'il est venu un jour? Ben, il est venu. Qu'est-ce qu'il attendait? Un tout petit groupe. On n'y croyait plus. Pourtant, il est venu. Mais il n'est pas né comme on le croyait, dans un palais, il est né dans une étable. Mais il est venu. Et nous sommes dans l'ère chrétienne, donc c'est vrai, c'est un événement historique. Ce n'est pas des idées que nous vous prêchons. Il y a eu un homme qui s'est appelé Jésus. Maintenant, c'est à savoir, est-ce qu'il était le Fils de Dieu? Est-ce qu'il était l'incarnation de Dieu? Est-ce qu'il était Dieu manifesté en chair? Lisez un peu l'Évangile, lisez l'Écriture. Comment, si vous êtes baptisé, comment pouvez-vous nier ces choses? Mais la chair, la chair des Juifs, qu'est-ce qu'elle a montré quand Jésus a été au milieu d'eux? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Le seul qui faisait le bien, le seul qui accomplissait la loi, quand il s'est trouvé au milieu des docteurs de la loi, qu'est-ce que les docteurs de la loi ont cherché? À le faire mourir. Parce que quelqu'un qui vit vraiment la vie de Dieu, c'est un gêneur. Et pourtant, pourtant, même les prostituées et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Ceux qui avaient conscience que ça n'allait pas en eux, eh bien, ils s'approchaient de Jésus beaucoup plus que les gens religieux. Et c'est toujours ainsi. Hein. Les gens religieux, ils se fient sur leur religion. Mais avec leur religion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec leur religion, ils vont dire, crucifie-le. Relâche-nous qui? Barabbas, un brigand. Hein? On se plaint des brigands, on se plaint des vols. Puis quand on a l'occasion d'avoir un homme droit, eh bien, on préfère le brigand. Il faut vraiment être insensé. Hein? C'est ce que le monde a fait. Quand les Juifs ont vu un homme qui accomplissait toute la loi, qui était sans reproche, un homme qui pouvait leur dire, qui d'entre vous peut me convaincre de pécher? Eh bien, on a voulu le faire mourir. Incroyable. Ça fait pleurer. Parce qu'il a tant aimé. On l'a fait tant souffrir. Alors maintenant, je sais ce qu'est la chair. Je sais ce que la chair est capable d'accomplir. Et puis, il y a une troisième chose que l'on ignore quand on croit qu'on peut se justifier par nos propres œuvres, c'est on ignore ce qu'est le monde. Ce qu'est le monde. Vous savez ce qu'est le monde ? On aime tellement le monde. Voyez-vous, on l'aime tellement, ce monde, que ça ne nous suffisait pas de sortir dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'on fasse ? Oh, vous me direz, mais ça, on n'en peut rien, ce sont les inventions, c'est le progrès. On a amené le monde sous notre toit. On a amené le monde presque dans toutes nos chambres. Il y a bientôt une télévision dans chaque chambre. Alors, au fond, c'est une façon d'amener le monde. Avant, on allait de temps en temps dans le monde voir un film. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, puis surtout avec la vidéo. On peut voir toutes les cochonneries possibles. Même dans une réunion, il y en a un qui m'a dit, un chrétien qui m'a dit, mais si je regarde ça avec ma femme, pour que ça nous mette en train, qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne me fait pas de mal. Ah, ils ont besoin de se mettre en train, je croyais qu'ils étaient au lit. C'est quelque chose de terrible. Se mettre en train. Alors il faut que je voie un film pour ça. Une cassette vidéo. Oui, on a amené le monde partout chez soi. Moi, vous me direz, ben, moi, je peux tourner le bouton. Puis vous me direz encore ce grand mensonge. Moi, j'ai la télévision seulement pour voir les émissions religieuses. Bande de menteurs. Hein? Oui, mais nous sommes des menteurs. Parce que moi, je sais très bien que si ma main est pour moi une occasion de chute, qu'est-ce que je dois faire? Je ferais mieux de la couper. Oui. Il y a des choses qui sont pour nous des occasions de chute. Alors, coupons-les. L'autre jour, il y avait Hydro-Québec qui était chez nous, là où nous habitons, et puis il nous avait dit qu'il coupait l'électricité de telle heure à telle heure. Et puis, tout à coup, ils se sont trompés. Après avoir coupé l'électricité, ils ont envoyé du 220 dans tout l'établissement. Et alors, évidemment, ça a fait sauter les frigos et bien d'autres choses, puis les postes de télévision. Alors, le lendemain, l'homme qui est chargé de voir tout ça est venu dans tous les appartements. Puis, chose extraordinaire, dans notre frigidaire, ça n'avait pas sauté. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors il me dit, et votre télévision? Et je lui dis, elle est au ciel. On dit, ben, au moins c'est un poste de moins. Il y a des choses drôles dans la vie. On fait aussi rire. Alors nous allons voir maintenant que cet épître aux Galates, qui vous paraît des fois si rude, mais vous allez voir pourquoi Paul dit tout cela. Et il nous montre tout ce qu'on peut trouver dans la mort du Christ. La fin du vieil homme, la fin de la chair, la fin de la loi, et aussi la fin de cet attrait que le monde a pour nous. Paul le dira, hein, je suis crucifié au monde, et le monde m'est crucifié. Il y a dans la mort du Christ une véritable délivrance. Alors, on arrive à notre chapitre 3. Vous me direz que je mets bien du temps pour y arriver. Hein. Mais je crois que quelquefois, en revenant sur les choses qu'on a vues, vous les comprenez mieux. Hein. Parce que c'est ça qu'il faut. C'est pas que moi, je sois brillant, c'est pas ça qu'il est question. C'est que j'essaye de vous faire comprendre ces vérités. Puis c'est peut-être la dernière fois que je vous parle. Parce que je pense toujours, moi, que c'est la dernière fois que je parle à un auditoire. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que notre vie? Qu'est-ce que notre vie? Un instant, puis on n'est plus. J'ai appris la mort d'un de mes amis. Il devait être dans une de mes réunions à Lyon. Et ce jour-là, on l'a amené à l'hôpital. Puis maintenant, on me dit qu'il serait mort. Et oui. et nous avons travaillé ensemble autrefois, on disparaît tout d'un coup. Alors, il faut y penser. Et on disparaît aux yeux des hommes, mais on paraît devant qui ? Devant Dieu. Alors, ce Dieu-là, est-ce qu'on le rencontre comme un père ou est-ce qu'on le rencontre comme un juge ? Parce qu'au bout de tous les chemins, comme je le dis souvent, ce n'est pas le diable que vous allez rencontrer. C'est Dieu, mais qui peut être père ou qui peut être juge. Et il ne voudrait pas être votre juge. Il voudrait être votre père et vous accueillir comme père. Mais pour qu'il soit réellement votre père, qu'est-ce qu'il faut que vous ayez fait ? Que vous ayez accepté son fils. C'est en recevant son fils qu'on devient enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme ou de la chair, mais de Dieu. Nés d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle nature. Alors, je vous le demande encore affectueusement, avez-vous rejeté la grâce ou acceptez-vous la grâce ? Chapitre 3, ô Galates, dépourvus de sens. Notre version dit, grand fou de Galates. Je ne veux pas vous injurier, mais il y a une version qui est très raide. Hein. Grand fou de Galates, mais vous êtes des insensés. Ô Galates, insensés, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné ? Vous, aux yeux desquels Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qu'est-ce qui avait peint dans sa prédication Jésus crucifié au milieu des Galates ? Paul, mais est-ce qu'il avait été au pied de la croix, lui ? Non. Il n'avait pas vécu la croix, comme Jean qui était près de Marie au pied de la croix. Or, se tenait auprès de la croix Marie, la mère de Jésus, et le disciple qu'il aimait, Jean. Mais Paul n'avait pas été au pied de la croix. Donc, comment est-ce qu'il avait eu une révélation telle qu'il pouvait dépeindre vraiment Jésus crucifié ? Eh bien, c'est dans ce désert d'Arabie, probablement, que le Seigneur lui avait montré vraiment tout ce qui s'était passé pour lui. Comme la Sainte Cène, l'Eucharistie, comme on l'appelle dans certaines églises, eh bien, il n'y avait pas participé au repas du Seigneur. Mais pourtant, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. La nuit qu'il fut livré, Jésus prit du pain. Il raconte ça comme s'il y avait été lui-même. Donc, tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, l'apôtre Paul l'a eu comme une révélation qui lui a été donnée par le Christ ressuscité. Alors, il était capable de parler de la crucifixion du Christ à ses Galates comme s'il y avait été. Et c'est bien aussi ce que nous devons faire. Et voyez-vous, dimanche après dimanche, quand nous communions, quand nous prenons la Sainte Cène, nous sommes comme replacés devant la croix du Christ, devant l'unique sacrifice du Christ, qui a été fait une fois pour toutes, qu'on ne peut pas répéter, mais qui est actualisé par la Sainte Cène, par le repas du Seigneur. Donc, je vous ai peint Jésus-Christ crucifié. Et puis, ils s'étaient convertis, ces Galates. Mais voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ? Parce que quand on se convertit au Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive ? On reçoit son Esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est donné. Vous vous souvenez comment Pierre a été prêché aux païens chez Corneille, au chapitre 10 des Actes, à Césarée Maritime. Et pendant qu'il prêchait à ces païens, au plein milieu de sa prédication, il n'a pas fait un appel. Mais tout à coup, qu'est-ce qui est arrivé ? Le Saint-Esprit est tombé sur les païens. Comme il était tombé à Jérusalem le jour de la Pentecôte. le même phénomène s'est produit à Césarée sur les païens comme il s'était produit à Jérusalem le jour de la Pentecôte, donc 50 jours après Pâques. Et alors Pierre avait été saisi. Est-ce que c'était des gens qui étaient déjà baptisés? Ces païens? Non, ils n'étaient pas encore baptisés. Et pourtant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, après coup, Pierre dit, est-ce que je peux leur refuser le baptême d'eau à eux qui ont reçu le baptême de l'Esprit? Il était complètement dépassé. Et quand c'est Dieu qui agit, on est toujours dépassé. Il fait toujours plus et mieux que tout ce que nous pouvons espérer et penser. C'est cela qui est extraordinaire et qui est merveilleux. Mais quand le pauvre Pierre est revenu à Jérusalem, il y avait le téléphone arabe, on savait déjà ce qu'il avait fait à Césarée, et on lui a fait d'amers reproches. Comment tu es allé chez les païens, tu as mangé avec eux, etc. Alors il doit leur raconter, par le menu détail, comment il a été conduit là. Et comment, en leur prêchant simplement l'événement de Jésus, ces gens, ces païens, avaient donc cru et croyant dans leur cœur, comme je veux croire aussi que vous n'êtes pas fermés maintenant à la parole que je vous annonce, hein, et que l'Esprit de Dieu vous pénètre. Si vous ne résistez pas, l'Esprit de Dieu vous pénètre. C'est pas quelque chose que vous devez sentir, une chaleur ou je ne sais trop quoi. Hein. Je vais pas vous dire ça. Hein. C'est pas quelque chose que vous devez sentir, mais c'est quelque chose qui va se manifester dans votre vie, dans les jours qui viendront. Si vous avez vraiment reçu la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en vous. C'est pas une décharge électrique. Mais il y aura cette puissance, il y aura ce changement. Vous direz, mais qu'est-ce qui se passe en moi? J'avais tel goût avant, je ne pouvais pas me passer de ça, puis maintenant ça m'écœure. Il y a un changement, une transformation. Vous direz, mais il y a quelqu'un d'autre en moi. Comprenez-vous? Quelqu'un m'habite et il a pris la direction de ma vie. Je la lui ai laissée. Je la lui ai laissée ce 8 février. Puis maintenant je vois que il conduit la voiture autrement que moi. C'est ça qui est merveilleux. Abandonnez-vous, cessez vos luttes vaines, faites confiance au nouveau conducteur. C'est le Seigneur. Et il va vous conduire. Et croyez ce qu'il a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous, on croit toujours. C'est le monde qui vous dit, oh, mais si tu te donnes au Seigneur, tu ne pourras plus faire ceci, tu ne pourras plus aller là, tu ne pourras plus ceci, plus ça. C'est tout faux, cela. Faites confiance au Seigneur et vous verrez qu'il vous montrera dans quel chemin vous avez à marcher. Et dans ce chemin, vous y aurez des joies que le monde ne pouvait pas vous donner. Alors, est-ce que c'est par la prédication de la foi que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez fait des bonnes œuvres? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, parce qu'il s'était vraiment donné au Seigneur, voulez-vous maintenant finir par la chair, revenir en arrière? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Parce qu'il y avait des choses qu'ils avaient abandonnées. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, parce qu'il y avait eu même des miracles opérés parmi les Galates, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Est-ce que c'est parce que vous avez fait des bonnes œuvres que Dieu se manifeste au milieu de vous? Ou bien c'est parce que vous avez cru sa parole? C'est parce que vous avez cru sa parole, comprenez-vous? Alors il prend le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Ce qui a sauvé Abraham, c'est que Dieu lui a dit, alors qu'il était déjà âgé, tu auras un fils. s'il regardait à lui-même, il disait, c'est pas possible. Mais comme c'est Dieu qui lui parlait, il a cru Dieu. Et cela lui a été compté à justice. Puis après, il a reçu le signe de sa foi, qui était quoi ? La circoncision dans la chair. On enlevait une partie du prépuce, une petite parcelle du prépuce, et il était circoncis. Mais est-ce que c'est parce qu'il était circoncis qu'il a été justifié ? Non, c'est parce qu'il a cru la promesse. C'est pas sa circoncision qui l'a sauvé, c'est sa foi. Il a cru Dieu, et il a cru avant d'être circoncis. Comprenez-vous ? De sorte que ce n'est pas la circoncision qui sauve. Alors, vouloir circoncire les païens qui avaient cru, c'était les replacer sous tout un régime qui était maintenant dépassé. C'était les faire revenir en arrière. Et c'était faux. Et alors, verset 7, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Maintenant, on est fils d'Abraham, pas parce qu'on est de la race juive, mais parce qu'on croit. Abraham est le père de tous les croyants, comprenez-le bien. Abraham devient le père de tous ceux qui croient, aussi bien des juifs que des païens. Les païens qui croient sont maintenant des enfants d'Abraham. Tandis que les juifs incroyants ne sont pas enfants d'Abraham. Vous pouvez avoir une religion et ne pas être sauvé. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé à cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Abraham a reçu cette promesse que, puisqu'il avait cru, non seulement le peuple qui sortirait de ses reins serait béni, donc le peuple hébreu, mais toutes les nations de la terre. C'est beau le salut. Hein. Le salut n'est pas seulement pour les juifs, il vient des juifs, mais il n'est pas seulement pour les juifs, il était pour toutes les nations de la terre. Ainsi, verset 9, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Est-ce que vous l'êtes ? C'est pas moi qui peux répondre. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et vous le comprenez. Vous voulez être sauvé par les œuvres de la loi ? Alors prenez les. J'ai dit combien il y en avait de commandements ? Combien ? 613, mais en réalité 248, et puis 365 défauts. Hein? Alors, accomplir toute la loi, vous-même, vous êtes sous la malédiction, vous n'y arriverez pas. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque, n'observe pas tout ce qui est écrit. Ce n'est pas seulement des grands commandements que vous devez observer, mais tout ce qui est écrit. Si vous voulez être justifié par la loi, il vous faut observer tout ce qui est écrit. Faites ces choses, dit l'Écriture, et vous vivrez. Est-ce que vous pouvez le faire ? Est-ce que vous avez le temps de le faire ? Il n'y aurait jamais eu un brigand sauvé sur la croix s'il avait dû accomplir la loi. Il est sauvé par grâce. Comprenez-vous ? Parce que si c'était sur le principe de des œuvres, quelle œuvre est-ce qu'il avait fait ? Il avait été un brigand. Alors, il n'y avait pas de salut pour lui, mais il y a eu salut pour lui, pour quelle raison ? Parce qu'il s'est reconnu coupable. Il a dit, nous sommes ici, justement, qu'il a dit à son compagnon. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait qui ne se dût faire. Puis il s'est tourné vers lui, puis il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Je m'en souviendrai dans 300 ans, que tu auras passé 300 ans au purgatoire. C'est ça qu'il lui a dit ? En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous ne trouvez pas que c'est beau l'évangile ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand vous êtes en face d'un mourant, et que vous pouvez lui dire ça, quelle qu'ait été sa vie, si tu te tournes vers le Seigneur, si tu reconnais ta culpabilité, Jésus est mort pour toi. Comment ? Par cette repentance, oui. Mais c'est Dieu qui la donne, cette repentance. Parce que vraiment, on a des cœurs durs, et pour qu'on arrive à la repentance, il faut que Dieu nous la donne. Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra de foi, par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. C'est simple. Alors, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et comment est-ce qu'il nous a rachetés ? En devenant, lui, malédiction pour nous. Tout ce qui a été maudit sur la croix, c'est le Christ. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Eh bien, il a accepté d'être fait malédiction pour nous. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Parce que cet Esprit, il avait été promis et il l'est promis aussi à chacun de nous. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », parce qu'il en a eu plusieurs, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et quelle est cette descendance ? C'est Jésus. Descendance d'Abraham par Marie. Voici verset 17, ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Alors, mes amis, quand Abraham a reçu la promesse qu'il aurait un fils, c'était combien de temps avant la loi, avant que fût donnée la loi de Moïse? 4 siècles avant, hein? La loi n'avait pas encore été donnée, Moïse n'existait pas. Alors, Dieu fait la promesse à Abraham que toutes les nations seraient bénies par sa descendance. Il fait donc une alliance avec Abraham. Mais voilà que 400 ans plus tard, ce Dieu qui a pris le peuple d'Israël du pays d'Égypte et qui l'a sorti parce que Dieu avait dit à Abraham, tes descendants vont être 400 ans en Égypte, dans un pays où ils seront esclaves. Mais au bout de ces 400 ans, je les en retirerai. Et en effet, quand Moïse a été suscité, Israël a été délivré avec puissance du pays d'Égypte et du joug du Pharaon. C'est vrai ou c'est faux? Vous connaissez cette histoire, hein? Dieu a accompli sa promesse, comme il l'avait dit à Abraham. Et il les a délivrés d'une façon merveilleuse. Lisez le chapitre 19 de l'Exode. Il est dit qu'il a été comme une mer qui les a sortis. Il a étendu ses ailes sur eux pour les protéger. Mais quand ils sont arrivés au Sinaï, qu'est-ce que le peuple a dit? Le peuple a prétendu à Moïse que Dieu nous parle et nous ferons tout ce qu'il dit. Vous savez, c'est très grave de dire cela. Parce que jusqu'alors, l'héritage de la vie était promis simplement, sans condition. le testament que Dieu avait fait avec Abraham était sans condition. Mais voilà que maintenant, les descendants d'Abraham prétendent, mais ce Dieu d'Abraham, ben, qu'il nous parle, puis nous, ses descendants, nous ferons ce qu'il dit. Alors Dieu les prend au mot. Et c'est pourquoi la loi a été donnée. Parce que le peuple d'Israël a prétendu pouvoir faire ce que Dieu voulait. Alors Dieu a donné les 10 commandements. Mais vous vous souvenez ce qui est arrivé quand ils ont entendu Dieu parler sur la montagne embrasée de feu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Dieu cesse de parler. On a trop peur, on ne peut plus entendre sa voix. Qu'il te parle à toi, Moïse, puis toi viens nous dire ce qu'il t'a dit. C'est trop grave d'entendre la voix de Dieu, quand c'est Dieu qui parle lui-même. Alors Moïse, toi, arrange-toi avec Dieu, puis viens nous raconter ce qu'il dit. Et nous ferons tout ce qu'il a dit. Ben, voilà pourquoi la loi était donnée. Vous prétendez pouvoir faire la loi? Eh bien, je vais vous la donner, voilà ce que vous devez faire. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Il l'a transgressé. Il a transgressé la loi. Toute la loi était... De sorte que la loi qui a été donnée ne leur est pas donnée pour les sauver, mais pour leur montrer leur incapacité à faire le bien. Vous prétendez faire le bien? Vous prétendez autre chose que ce que moi je veux vous donner? Vous prétendez pouvoir acquérir ce que moi je veux vous donner? Non, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi la loi a été donnée. Alors, la loi n'a pas annulé la promesse qui avait été faite à Abraham. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Alors, vous le voyez maintenant. Pourquoi est-ce que la loi a été donnée? Verset 19. Elle a été donnée, ensuite, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. Quelle est cette descendance? Le Christ. Alors, évidemment, la loi a été donnée comme un frein pour que dans ce monde, on ne fasse pas n'importe quoi. Mais c'est pas la loi qui peut sauver. Elle est comme un frein à cause des transgressions. Mais elle a été donnée jusqu'à ce que la descendance vienne. Alors, quelle est cette descendance? C'est le Christ. Elle a été promulguée par des anges qui étaient là aussi au Sinaï au moyen d'un médiateur qui était Moïse. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Hein? C'est vrai. J'ai pas besoin de vous expliquer ça. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis à Abraham, soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Au fond, la loi nous a été donnée jusqu'à ce que le Christ vienne. Ainsi, la loi a été un précepteur ou un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, il n'est pas question de revenir sous la loi. La loi a été donnée par Moïse jusqu'à ce que vienne Jésus-Christ. Alors, quand Jésus-Christ est venu, on ne va pas retourner sous la loi pour être justifié. Qu'est-ce qui va nous justifier? La foi en Christ. Mais alors, ne disons pas que la loi n'a servi à rien. Oui, la loi a servi à nous montrer que nous n'étions pas capables de faire l'œuvre de Dieu. Voilà le rôle de la loi. La loi est sainte, juste et bonne, mais elle prouve que nous sommes incapables de plaire par nous-mêmes à Dieu. Alors, il nous faut un sauveur. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu, par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et c'était cela la signification profonde du baptême. Le baptême, ce n'est pas l'effacement d'une tâche originelle. Le baptême, c'était une immersion. On immergeait le néophyte dans l'eau pour signifier que comme Christ était mort, nous aussi nous sommes morts en lui. Mais comme on ne reste pas dans l'eau, on en sortait. Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. De sorte que notre vie maintenant, c'est une autre vie. C'est une vie nouvelle. C'était ça le baptême. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais il est le signe de notre foi. Comprenez-vous? Alors, au début, dans le christianisme, on baptisait ceux qui avaient la foi, ceux qui croyaient. Le baptême ne précédait pas la foi, mais suivait la foi, comme la circoncision avait suivi la foi d'Abraham. De sorte que maintenant, verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est plus une question de nationalité. Oui, vous êtes né dans tel pays, alors vous avez cette nationalité. Mais ma nationalité ne va pas me conduire au ciel. C'est une nouvelle naissance qui me conduit au ciel. Il n'y a plus ni juif ni grec, c'est plus une question de race. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de sexe? C'est pas ça, non. N'est-ce pas? Mais le salut est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Comprenez, vous avez assez d'intelligence pour ça. En Jésus-Christ, il n'y a plus de différence. Hein. On est tous pécheurs, mais on peut tous aussi être sauvés. C'est plus une question de race, c'est plus une question de sexe. C'est plus une question de position, esclave ou libre. Mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance de qui? D'Abraham. Vous êtes donc fils de la promesse. Vous êtes sauvés parce que vous avez cru la promesse de Dieu. Et vous savez, qu'est-ce qui honore Dieu? C'est ça la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est pas croire que Dieu existe. C'est toute autre chose. C'est quoi? C'est croire ce que Dieu nous dit. Hein? Vous êtes père, hein? Vous êtes mère. Ben, votre enfant, est-ce qu'il a de la peine de croire que vous existez? Non. Et il vous voit, hein? Mais qu'est-ce qui vous honore? C'est si votre enfant vous croit. C'est vrai, ça, hein? Que votre enfant dise, mais mon père, il existe, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Vous me dites que vous croyez que Dieu existe. C'est pas la foi, ça. C'est une croyance. Mais la foi, elle vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. La foi, c'est croire ce que Dieu nous dit, nous enseigne. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que nous sommes perdus, parce que lui nous connaît. Que nous sommes incapables de nous sauver, mais qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a donné un sauveur. De sorte que la foi, elle repose sur ce double témoignage. Ce témoignage que Dieu a rendu de nous, et il ne se trompe pas, il ne nous trompe pas, mais aussi le témoignage qu'il nous rend du Christ. Son Fils unique nous rachète. Si par un seul homme le péché est entré dans le monde et que tous sont pécheurs, par la justice d'un seul, le Christ, tous peuvent être rendus justes. Alors c'est grand, hein, la justice et la miséricorde de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est ce qu'on faisait en Orient. Un enfant, il était remis entre les mains d'un tuteur, le père le remettait entre les mains d'un tuteur jusqu'à ce qu'il ait un certain âge. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Tant que nous n'avions pas la maturité pour rencontrer Christ, nous étions tenus par la loi, c'est vrai, par les éléments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son fils, né d'une femme. Qui était cette femme? Marie. Née sous la loi, et Jésus l'a accompli, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, c'était les Juifs, et afin que nous recevions, nous aussi, l'adoption. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. Jésus, lui, il est le fils unique. Mais nous, nous le sommes par adoption. Mais c'est beau, hein? Une vraie adoption. Dieu vous adopte. Et parce que vous êtes fils, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Et l'Esprit de son Fils est dans votre cœur quand vous le recevez, et vous pouvez crier « Abba, Père ». Vous pouvez appeler Dieu réellement votre Père. Littéralement, vous pouvez lui dire « Papa ». C'est ça, « Abba ».« Papa ». On peut dire à Dieu, il y a une telle intimité qu'on peut lui dire « Papa, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, c'est vrai. Si tu es fils, tu es héritier. Alors, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Deviens un fils et tu auras la vie éternelle. C'est pas fais des choses, mais deviens ce qui t'est proposé. Accepte cette grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Et c'est vrai, hein? On a été drôlement païens. Qu'est-ce qu'on a servi comme dieu? Des faux dieux, hein? Des idoles. On avait des idoles dans notre cœur. Mais à présent, vous avez connu Dieu. Est-ce que nous le connaissons, Dieu, maintenant? On le connaît en Jésus-Christ. Ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. C'est ça qui est merveilleux, hein? Nous, on pense qu'on connaît Dieu, mais on a été connu de Dieu. Et c'est ça qui est fantastique. Et quand il est dit que nous avons été connus de Dieu, ça veut dire que Dieu sait tout de moi. Vous savez, ça nous soulage, hein, de savoir ça. Dieu ne se trompe pas sur nous. Il sait tout de nous. On ne peut rien lui apprendre sur nous. Des mauvaises langues peuvent aller lui dire toutes sortes de choses sur nous. Dieu dit, mais moi je le connais. Et je l'aime. Je l'aime comme il est. Et c'est moi qui me charge de lui. Alors, comment retournerions-nous à ces faibles et pauvres principes élémentaires? Quand ces faux docteurs leur disaient, oui, mais vous croyez en Jésus-Christ, mais ça suffit pas, cela. Je sais pas ce que vous pensez. Vous voulez de nouveau vous asservir à toutes sortes de formes? Vous observez des jours, des mois, des temps, des années? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ça vous suffit pas, Jésus-Christ? Non, il faut faire encore ceci, il faut faire encore cela. Il faut faire un pèlerinage quelque part. Moi, j'ai rien contre un pèlerinage. Ça vous fait voir du pays. Mais c'est pas un pèlerinage qui va vous faire trouver le salut. Comprenez-le bien. C'est pas ça qui peut vous sauver. Alors, Paul dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Puis tout à coup, bien, il leur dit, mais je voudrais que vous soyez comme moi, vous savez. Et il se donne en exemple, mais pas parce qu'il se glorifie. Car moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Puis, tout à coup, il oublie tout son enseignement. Puis, il se rappelle du temps où il était avec eux. Puis, il a quand même de bons souvenirs. Frère, je vous en supplie. Verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Une maladie, hein? Une maladie que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. J'étais seulement de passage, puis voilà que, je ne sais pas s'il a eu une grippe ou autre chose, mais enfin il a dû rester là. Il a eu une infirmité. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. C'était peut-être une maladie et qui n'était pas très, très heureuse. Il y avait peut-être du pu, peu importe, hein? Il dit, mais vous n'avez manifesté ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Vous voyez qu'il leur montre, même si je dois vous dire des choses dures, mais je vous aime, puis je garde un bon souvenir de vous. Mais quand je vous ai enseigné ces choses, vous étiez d'accord avec moi. Pourquoi est-ce que maintenant, quand les autres viennent vous dire que vous devez ajouter toutes sortes de choses, pourquoi est-ce que vous oubliez ce que je vous ai enseigné? Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'était beau, donc il y avait eu des vrais liens entre eux. Parce que quand on dit que je vous donnerai mes yeux, ça veut dire que je vous aime. Hein? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous, ces gens qui viennent vous troubler, il n'est pas pur. mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. C'est toujours ce que font les faux docteurs. Ils voient des gens qui marchent bien, et ils sont là qui vous guettent pour faire de vous des sectaires, pour vous amener à ajouter quelque chose. Faire de vous des sectaires. C'est là qu'il faut faire attention. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Voilà, il a fait cette parenthèse de souvenir. Puis, ensuite, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, il parle comme une femme, comme une mère, très tendre. Et il dit, je suis de nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je ne voudrais pas que vous ayez seulement le petit Jésus. Je voudrais que vous ayez Jésus en plénitude. Vous arriviez à une pleine maturité. Je voudrais que Christ soit formé en vous, qu'il ne soit pas seulement un enfant en vous, mais qu'il vous remplisse. Je voudrais être maintenant près de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Alors ça, vous allez dans la Genèse pour trouver ça. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et de Sarah. Sarah, voyant qu'elle ne pouvait plus donner d'enfant à Abraham, a eu une idée. Ce que je dis quelquefois, aide-toi, le ciel t'aidera. Elle s'est dit, il faut quand même aider Dieu à tenir sa promesse. Il a dit que mon vieil Abraham aurait un fils, puis moi... J'ai plus que les femmes ont coutume d'avoir, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est plus possible que j'ai un enfant. Alors, elle a une petite servante qui est mignonne, qui est jolie, et elle dit au père Abraham, c'est ta servante, couche avec elle, puis j'aurai un fils, et comme elle est notre servante, ça sera notre fils, puisque Dieu semble tarder, puis que c'est plus possible. Puis le père Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Hein? Non, ça n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd, non? Quand il y a une petite occasion comme ça, puis que la femme est d'accord, vous rendez-vous compte de l'occasion, il serait bien bête. Vous voyez comme c'est humain, hein, l'écriture.